C'est la radio, ça? Allumez-la.
Radio Campus, la radio idéale pour votre autoradio.
88.3.
Avis de recherche.
Avis de recherche.
Avis de recherche.
Avis de recherche. Point de vue sur la vie des laboratoires de l'UHA est une émission produite par le service universitaire de l'action culturelle de l'Université de Haute-Alsace en collaboration avec Radio MNE, coordonnée par Isabelle Lefebvre, chargée de l'action culturelle, et Laurent Vonat, enseignant-chercheur. Avis de recherche, une émission de Carole Écoffé
avec le soutien de la région Grand Est.
Bonjour, pour cette nouvelle émission d'avis de recherche, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Jean-Luc Bubendorf. Jean-Luc Bubendorf qui est donc enseignant-chercheur à l'université, professeur d'université, et qui s'est très investi dans les cérémonies autour des 150 ans de la Société française de physique. Donc nous allons présenter son travail, mais également parler un peu plus des sociétés savantes et de la vulgarisation des sciences. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Carole.
Alors j'aimerais bien peut-être tout d'abord que vous vous présentiez, que vous expliquiez votre travail de recherche et qui vous êtes.
Oui, donc comme tu disais, j'enseigne la physique à la faculté des sciences et techniques à tous les niveaux, de la licence au master. Et puis j'effectue mes travaux de recherche en utilisant des techniques d'imagerie qu'on appelle par microscopie à champ proche dans le domaine des matériaux de taille nanomatrique, ce qu'on appelle aujourd'hui les nanosciences, au sein d'un institut qui s'appelle l'Institut de sciences des matériaux de Mulhouse, qui est une unité mixte de recherche CNRS Université de Haute-Alsace. J'ai toujours été passionné d'histoire et particulièrement de l'histoire des sciences, et comme j'aime bien partager mes connaissances avec le grand public, j'ai naturellement rejoint une société savante qui est la Société française de physique, dont nous parlerons, je pense, par la suite.
Tout à fait. Et donc, dans vos activités à l'université, il y a une part de recherche et une part d'enseignement. Alors, pour vous, ces deux aspects de la recherche sont-ils deux mondes, pas complètement différents, mais assez différents, ou se nourrissent-ils l'un de l'autre? En fait, en posant cette question, j'ai en tête une vision de l'université qu'avait Alexander von Humboldt, qui était un naturaliste et géographe allemand du 19e, je pense que ça vous le savez, mais peut-être pas les auditeurs. Et donc, c'est lui qui a vraiment insisté sur la nécessité d'avoir à l'université des travaux de recherche. Pour lui, c'était pas simplement transmettre du savoir ancien, mais transmettre un savoir vivant et un savoir qui se construisait. Donc, est-ce que la vision de Humboldt du début du 19e est toujours d'actualité, d'après vous?
Effectivement, moi j'adhère entièrement à cette vision, parce que j'essaie toujours dans mes enseignements de faire apparaître des travaux de recherche plus récents pour montrer aux étudiants que ces choses-là ne sont pas déconnectées de la vie quotidienne. Alors, je commence toujours mes cours en parler d'histoire des sciences, parce que je trouve que c'est important que les gens comprennent que souvent les théories sont apparues suite à des expériences qui ensuite ont été interprétées, qui ont donné lieu à d'autres expériences. Tout ça est le fruit d'une évolution. Et à un moment donné, il y a quelqu'un, un grand scientifique, que ce soit par exemple Maxwell pour l'électromagnétisme, qui a fait une synthèse de tout ça en créant ce qu'on appelle la théorie de l'électromagnétisme, qu'on enseigne encore actuellement dans les universités ou les écoles d'ingénieurs françaises. Et on pourrait prendre d'autres exemples, mais à travers l'histoire, il y a plusieurs domaines comme ça qui sont le fruit d'expériences et d'évolutions qui ont conduit à l'émergence de nouveaux domaines de la physique, par exemple.
Il n'y avait pas quelqu'un qui disait que nous sommes des nains sur des épaules de géants, pour dire que,
oui,
que tout ce que l'on fait, finalement, ça s'appuie sur des tas d'expériences qui ont déjà été faites, et qu'en fait on apporte une petite brique.
Chacun apporte sa pierre à l'édifice.
Voilà.
C'est ça, le progrès scientifique.
Tout à fait, tout à fait. Et le lien, cette fois-ci, non pas avec le passé, mais presque avec l'avenir, quand on parle de lien entre la recherche et l'enseignement universitaire, à quel moment on se dit que ce que l'on est en train de faire dans les laboratoires, ça va devenir quelque chose que l'on va apprendre à des étudiants?
Disons que ce qu'on fait comme travaux de recherche, parfois, dans certains cours, à un moment donné, ça devient l'évidence qu'on peut leur présenter ça parce qu'on se dit, tiens, ça, ils vont comprendre parce qu'ils ont eu les bases de physique nécessaires pour voir que ce que nous faisons actuellement, ce que nous apprenons actuellement, également leur permettra d'accéder à ce niveau de connaissance.
En plus, je pense que ça dépend du niveau, je pense, en licence.
Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est plus difficile en licence, mais en master, ils effectuent justement des travaux pratiques en laboratoire où ils découvrent les techniques expérimentales que nous utilisons et en même temps, ils ont des stages où ils s'initient déjà à la recherche. Et c'est là que souvent on a l'occasion de leur parler plus de nos travaux personnels.
Bien sûr. Et on entend des fois dire aussi que finalement, les chercheurs ne sont pas toujours d'accord, qu'il y a des hésitations, qu'il y a des doutes, que finalement les savoirs scientifiques peuvent évoluer, peuvent changer. Et est-ce qu'il ne faut pas faire attention à quel moment on induit cette notion de savoirs qui peuvent être remis en question, ou comment on aborde cette question du doute scientifique avec les étudiants, surtout quand on est chercheur soi-même?
De toute façon, c'est vrai que le doute fait partie de la démarche du scientifique. Et donc, il faut aussi que les étudiants, c'est ce que je leur explique dans l'histoire des sciences, c'est que toutes ces choses-là ne se sont faites par des doutes également. Certaines personnes ont avancé des théories, mais doutaient elles-mêmes de ce qu'elles disaient. Mais à un moment donné, une expérience a montré qu'ils avaient raison. Finalement, le doute se résout toujours par l'expérience qui vient donner le fin mot de l'histoire. C'est-à-dire que si vous construisez une théorie et que vous n'avez pas une expérience qui vous permet de le démontrer, on va dire que cette théorie ne sera jamais validée.
Effectivement, avec les étudiants, il y a d'un côté la matière que l'on enseigne, donc vraiment le contenu, mais il y a également toute la démarche scientifique. Et en étant en lien avec la recherche, je pense qu'on peut leur donner la mesure exacte de qu'est-ce que ça veut dire cette démarche, ce doute, comment on construit un savoir. Et ça vous plaît bien.
Je pense que les étudiants s'en rendent vraiment compte de cette démarche scientifique le jour où ils font des stages de master ou même s'ils font une thèse. Il y aura toujours un étudiant qui pourra te raconter une histoire où il se dit, là j'ai fait une expérience, j'étais sûr dans 2 ans j'ai le prix Nobel parce que j'étais sûr d'avoir interprété mon expérience d'une certaine manière, et puis à un moment donné en la refaisant et en cherchant à démontrer finalement que son expérience était correcte, il s'est rendu compte qu'il a fait une mauvaise manipulation, une erreur qui conduit à d'autres choses.
Il y a comme ça des tas d'anecdotes.
Voilà, tout le monde pourra raconter une anecdote sur ce sujet. Moi-même aussi, je l'ai vécu. Mais bon, chaque étudiant aura une anecdote à raconter du jour où il s'est vu le prix Nobel de physique ou de chimie.
Quand on se dit oui, on voit un phénomène qui n'est pas décrit, n'est pas encore décrit.
Exactement. Et puis après, on se rend compte que ça pourrait être expliqué par un artefact de mesure. Et puis, on commence à douter, on refait d'autres expériences. Et puis, on se rend compte qu'on a failli être la risée de l'humanité si on avait persisté dans cette voie-là.
Oui, je crois qu'il y a même des chercheurs de renom. Oui. Qui à un moment se sont enferrés dans des théories, pense à la mémoire de l'eau, typiquement. C'est quand même, c'est quand même un exemple très classique où même en essayant de refaire les expériences, même avec tout un protocole expérimental très sérieux, on n'a pas réussi à réobtenir.
Exactement, oui.
Et néanmoins, celui qui avait publié ça, il a eu du mal à accepter.
Oui.
Parce que
c'était son travail.
Et lui-même, il croyait, c'est pas qu'il ait voulu mentir, c'est qu'il croyait vraiment à ses expériences. Et humainement, c'est compliqué de se remettre en cause.
c'est là que, on va dire, la force de la science, dans le sens que vous faites une découverte, toute personne avec les équipements nécessaires, dans n'importe quel endroit de la planète, doit être capable de reproduire votre expérience et d'arriver aux mêmes conclusions que vous. Et aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, eh ben, votre expérience ou votre théorie n'est pas validée.
Et cet aspect-là, donc, forcément, vous cherchez à le transmettre pour autant que possible à vos étudiants.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc le lien recherche-enseignement est très important. Alors, moi, j'aurais aussi un peu petite question. On sent bien vous intéresser à l'histoire des sciences, à la philosophie des sciences, à tout ce qui est derrière. Et il vous arrive de proposer ces sujets, donc, comme vous l'avez dit, en illustration dans votre cours, pour introduire un cours ou pour donner des exemples, pour faire comprendre la manière dont le savoir s'est construit. Mais vous proposez également des conférences au grand public. Et là, comment vous travaillez? C'est quoi votre motivation?
Comme je le disais, j'ai toujours été passionné d'histoire. Alors, en 2005, il y a eu l'année mondiale de la physique, la première fois. Donc, j'ai tout de suite pensé à proposer une conférence grand public à Mulhouse, sur un sujet qui regroupe mes passions, la physique et l'archéologie. Et à partir de là, j'ai mis un peu le doigt dans un engrenage qui m'a beaucoup intéressé. C'est qu'au fur et à mesure, j'ai fait des séries de conférences grand public en fonction des sollicitations de différents artistes que j'ai rencontrés.
D'accord.
Il y a quelques années, j'avais commencé au Musée des Beaux-Arts à parler de Darwin et de comment il avait, à partir de ses voyages, créé sa théorie de l'évolution. Tout ça parce qu'il y avait une exposition de Véronique Arnaud.
D'accord, donc là c'était vraiment une conférence en lien
avec
une exposition artistique et vous avez apporté un complément en apportant ce regard sur Darwin, donc c'était avec Véronique Arnold.
C'est ça. Et puis ensuite j'ai rencontré aussi Joseph Beck qui faisait une exposition à Colmar et là j'ai fait une conférence que j'ai intitulée Le noir dans tous ses états, où j'ai parlé de la couleur noire, des trous noirs, de la matière noire. Chaque fois que le terme noir apparaît en physique, qu'est-ce qu'il signifie?
D'accord, très bien. Et donc, quand vous avez ce type de conférence à faire, c'est un travail assez différent du travail de chercheur en physique.
Exactement, oui.
Et où est-ce que vous allez chercher les informations? Comment ça se passe?
Alors, moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup encore à l'ancienne, c'est-à-dire qui va dans les bibliothèques universitaires, notamment celle de Strasbourg, ou alors à la bibliothèque universitaire ici à Mulhouse, ou à la CIM, la bibliothèque de la CIM, où j'ai aussi trouvé un certain nombre d'ouvrages qui m'avaient beaucoup intéressé sur Darwin à l'époque.
D'accord, donc la Société industrielle mulhousienne.
Oui, c'est ça. La bibliothèque de la CIM. Et puis je me documente beaucoup et je regarde un peu aussi les controverses qui existent autour de la thématique que j'ai abordée, parce que souvent les controverses sont intéressantes parce que ça permet d'avoir des points de vue différents. Et bien sûr, en tant que scientifique, on se demande qui a raison, quels sont les arguments dans un sens ou dans l'autre.
D'accord, oui, donc en fait vous continuez un travail presque de recherche en histoire,
oui.
Enfin, vous appliquez les méthodes, de la rigueur quant aux sources, la vérification, essayer de chercher plusieurs voies, donc la rigueur scientifique s'applique aussi pour la construction de conférences sur des sujets historiques.
Oui, tout à fait, je pense que dans l'histoire il faut appliquer une certaine rigueur scientifique pour ne pas tomber dans les pièges d'une idéologie quelconque.
Ça, c'est clair. Et est-ce que vous pensez que ce travail, alors en plus du travail de chercheur et d'enseignant, est-ce qu'il fait partie intégrante du travail du personnel de la recherche et de l'université, ou c'est un travail plus personnel? Est-ce que vous pensez que ça nourrit aussi le travail de recherche?
Pour moi, actuellement, c'est plus une passion, mais j'avoue que je trouve que ça devrait faire partie de notre travail d'universitaire aussi, d'aller plus vers le grand public, de bien montrer quelle est la démarche scientifique, pour éviter que les gens ne tombent dans des fausses idées qui se répandent sur Internet et puissent avoir une vision un peu rationnelle des choses.
À l'époque des fake news, ça semble une saine gymnastique de l'esprit que de se repencher un peu sur la philosophie des sciences.
Oui, tout à fait.
On va écouter un petit morceau de musique.
Do you know that beast?
Qui inventa?
Who discovered?
Le calcul intégral.
Integral calculus.
Oui, dis-moi, connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral? Est-ce Leibniz ou bien Newton ou bien est-ce que c'est moi qui déconne? Voudrais-tu, mon amour, intégrer des équations nuit et jour? Sais-tu que quand on fait des épures, tout ce qu'on attrape c'est les courbatures? Moi j'en ai eu quand j'étais tout gamin, en trayant des vaches pour la Saint-Valentin. Il y en avait une qui avait une bonne tête, elle était mignonne, on l'appelait Chipette.
Oh, tell me!
Dis-moi!
Do you know that beast?
Connais-tu le général?
Who discovered?
Qui inventa?
Integral calculus!
Le calcul intégral!
Le général Cambronne, je crois que ce qu'il a trouvé, c'est pas tout à fait ça. Pénélope, quand tu lis ses parties, tout ce qu'elle savait, c'est faire tapisserie, la pauvre. L'homme des neiges, c'est pareil, il a dû fondre au soleil. S-Astérix, soit plus Mégalix, pendant que vous y êtes, pourquoi pas Évarix?
Évarix le Gaulois!
Non, c'est pas moi, c'est ma sœur
qui a cassé le calculateur!
Quand je t'ai vu sur ton balcon, tu m'as dit intègre et ne fais balcon.
Mais dis-moi,
tell me!
Connais-tu l'animal?
Do you know that beast?
Qui inventa?
Who discovered?
Les campagnes électorales!
Integral calculus!
Sais-tu quels furent les premiers porte-clés? Ben tout simplement, les bourgeois de Calais.
Ce que je pense d'Antoine et de Jacques Dutronc,
ça commence par C, ça finit par on.
700 millions de yéyés à travers le monde entier. Ça ne fait jamais tout bien compter qu'un 1 400 000 000 de pieds.
Je crois qu'il vaut mieux mettre un point final, sinon ça pourrait finir encore plus mal.
Oh yeah!
Avis de recherche.
Avis de recherche.
Avis de recherche.
Très bien, donc on vient d'écouter le groupe Évariste et sa chanson « Connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral ?» Donc on avait ici une autre forme de vulgarisation, je pense d'un style assez différent de ce que vous proposez dans vos conférences, Jean-Luc, c'est pas tout à fait pareil.
Tout à fait.
Cependant, ça donne l'occasion de parler au grand public de l'histoire des sciences, et ici en l'occurrence c'était la fameuse querelle entre Leibniz et Newton sur le calcul intégral, donc une des controverses de science bien connues. Très bien, et alors si on vous a fait venir aujourd'hui, c'est aussi que vous êtes une cheville ouvrière d'un événement, d'un anniversaire important, à savoir les 150 ans de la Société française de physique. Donc moi ce que j'aimerais savoir c'est ce qu'est la Société française de physique, et peut-être nous en dire un peu plus sur les sociétés savantes, mais également sur ce qui va se passer pour cette année des 150 ans. Donc, la Société française de physique, c'est quoi ?
Comme tu le disais, Carole, c'est une société savante qui a été créée par les physiciennes et physiciens français dans le but d'abord d'échanger soit la physique, sa production, son financement, sa place dans la société. Et en même temps d'œuvrer collectivement pour animer la communauté française et pour garantir l'accès à la culture scientifique pour le plus grand nombre. Elle se compose de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, de doctorants, mais aussi de professionnels venant d'entreprises. Si je résume, d'hommes et de femmes qui partagent tous la même passion pour la physique et la volonté de la valoriser au sein de la société.
Et ça, pourquoi est-ce qu'on a créé cette structure il y a 150 ans, donc en 1873, comment ça s'est passé? Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
À l'époque, c'est à l'École normale supérieure de Paris qu'ils organisaient des séminaires interdisciplinaires entre chercheurs en physique. Et à un moment donné, Pierre d'Almeida, qui va être le fondateur de la Société française de physique, se dit qu'il faudrait ouvrir ces séminaires au grand public, c'est-à-dire les rendre accessibles à tout un chacun, à toute personne qui a envie de s'intéresser à la physique, de venir les écouter. Et donc, on crée la Société française de physique pour créer une ouverture vers la société. Et ensuite, on va éditer un bulletin de la Société française de physique qui deviendra par la suite des revues mensuelles où on didactise les travaux de recherche à destination du grand public pour faire comprendre quels sont les enjeux à la société.
D'accord. Et alors là, on fête quand même les 150 ans, et toute cette histoire-là, est-ce qu'on peut y avoir accès?
Oui, la Société française de physique a édité un ouvrage qui s'appelle « Les 150 ans de la Société française de physique, panorama historique et scientifique ». C'est un ouvrage qui retrace l'histoire de la SFP au regard de l'histoire de la physique, et elle expose également les défis scientifiques à venir.
Et vous avez participé?
Oui, j'ai participé à la rédaction d'un chapitre sur ma spécialité, la physique de la matière condensée.
D'accord.
Avec d'autres collègues des universités françaises.
D'accord, donc vous avez contribué à cet ouvrage. Et alors, vous avez pu voir un peu le plan global de l'ouvrage, parce que
oui.
150 ans de la physique. Alors, moi j'ai quand même souvenir qu'il y a eu des périodes... troubles au XXe siècle, des périodes de guerre, puis encore, j'ai envie de dire, aujourd'hui aussi, on vit une époque un peu compliquée. Mais dans ces moments-là, les scientifiques sont souvent sollicités.
Est-ce qu'on
en parle alors?
Oui, on en parle effectivement. L'exemple le plus flagrant que la plupart des gens connaissent déjà, c'est Marie Curie qui avait utilisé les rayons X, donc les fameux Röntgenstrahlen, pour développer des poses de radiologie directement sur le front en 14-18 pour faire des radios des soldats blessés, pour savoir comment les opérer, les soigner directement le plus rapidement possible. Donc c'est vrai que la Société française de physique en 14-18 a participé comme tous les Français à l'effort de guerre dans la mesure de ses moyens, c'est-à-dire en essayant d'appliquer certaines recherches scientifiques à la médecine ou à la chirurgie. Mm-hmm. Et puis, bon, il y a beaucoup de membres de la SFP qui sont morts dans les champs de bataille. Il y a une liste justement qui avait été établie récemment au moment de cet ouvrage collectif pour montrer qu'il y a eu d'énormes pertes également du côté des scientifiques français.
D'accord.
Qui ont été impliqués dans cette guerre, qui ont été mobilisés aussi. Comme les artistes, hein, on pense toujours à Apollinaire qui est mort sur le front. Il y a la SFP avant la guerre, qui a, pendant la guerre 14-18 a été décimée. On peut dire aussi comme les poètes, on peut faire une liste de grands scientifiques qui sont morts parce qu'ils étaient sur les batailles, les champs de bataille de la Marne ou de Picardie.
Oui, et alors je pensais encore ensuite à la Seconde Guerre mondiale, où là, on voit que sur les sujets clés, les scientifiques ont aussi été sollicités, puisque la recherche sur l'art anatomique était une recherche scientifique, la recherche sur le décodage et le début de l'informatique a aussi changé la face de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, bon, c'est pas tout à fait de la physique, c'était plus de l'informatique, mais les scientifiques en période de guerre ont eu un rôle assez particulier à jouer, et quand on se replonge dans l'histoire, forcément on découvre des réflexions, des prises de position, des besoins d'être pris.
C'est vrai que contrairement à 14-18 où les physiciens français étaient très investis dans la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ils ont essayé d'éviter de se retrouver mêlés au nazisme ou à ce genre de choses. Et donc, la Société française de physique, pour survivre, s'est transformée en un organisme de charité qui essayait d'aider des scientifiques en fuite.
D'accord. Très bien, oui. Alors, pour revenir un peu à la notion de société savante, alors, historiquement, ce n'était pas la première, la Société française de physique, puisqu'il y a quand même tous les modèles des sociétés royales de sciences en Angleterre. Société française de chimie, je ne sais pas si elle était un petit peu avant, un peu après, mais c'était dans ces eaux-là. Mais en revanche, à Mulhouse, on a quand même la Société industrielle mulhousienne, qui est en quelque sorte une société savante. Et vous l'avez cité d'ailleurs dans vos sources, puisque vous êtes allé régulièrement chercher des informations à la bibliothèque de la Société industrielle de Mulhouse.
Tout à fait, oui.
Et donc, vous travaillez un peu avec, à titre personnel, oui, mais sinon la Société française de physique n'a pas de lien particulier avec.
Non, c'est...
Pourtant, les buts étaient un peu similaires. En tous les cas, au départ,
oui.
Il y avait des conférences, donc vraiment pour le grand public, avec l'idée de transmettre à la société l'avancée des recherches techniques. Donc, mais aujourd'hui encore, sur Mulhouse, la Société industrielle de Mulhouse propose des conférences de sciences et sur des sujets un peu divers. Et toujours à Mulhouse, on a une autre société savante, qui est la Société européenne de physique. Peu de gens le savent, mais on a le siège de la Société européenne de physique qui est à Mulhouse.
Tout à fait, sur le campus de Lindbergh, justement.
Oui, oui. Et sur certains sujets, vous avez l'occasion de retravailler ensemble, peut-être sur l'histoire des femmes et des sciences.
Parce oui, tout à fait. Oui. Lorsque nous montons une exposition à l'UHA aussi, et souvent ils viennent en appui de documentation ou de publicité.
Mm-hmm. Alors, au niveau des buts des différentes sociétés savantes, alors je me trompe peut-être, mais il me semble que la Société européenne de physique va organiser beaucoup plus de rencontres internationales, des congrès, les publications ont un écho, un public forcément beaucoup plus large. Mais en revanche, au niveau de la vulgarisation des sciences et de la transmission auprès du public, vous avez plus des réseaux locaux, des réseaux de...
Oui, c'est ça, il y a des bureaux locaux, il y a un bureau Alsace, de la Société française de physique. Alors pour revenir sur l'European Physical Society, c'est vrai que c'est un regroupement de toutes les sociétés européennes de physique, la SFP en fait partie également.
Voilà, donc il y a des liens,
oui.
Puis de fait, il y a des liens entre toutes les sociétés
oui.
savantes dans les différents pays.
Oui, dans les différents pays, exactement.
D'accord, très bien, oui.
Pour essayer de gagner en visibilité, en nombre, parce que je me rappelle juste, petite anecdote, on a eu quelques années la visite du représentant de la Société chinoise de chimie, de physique à Mulhouse, qui représente à lui seul 1 million de physiciens chinois.
D'accord.
Alors pour donner un ordre de grandeur, c'est vrai que la Société française de physique va regrouper, on va dire, dans les 500 physiciens. Et puis à une échelle européenne, je ne pourrais pas donner le chiffre de la société européenne, mais j'imagine...
On n'atteint pas le million.
On n'atteindra jamais la taille de la chinoise, mais c'est un effort de regroupement qui est tout à fait louable.
Et alors, revenons un petit peu à la Société française de physique, elle a 150 ans. Quel est son rôle aujourd'hui dans la société?
Actuellement, elle organise souvent des concours sur la physique où tout le monde peut participer. Elle fait beaucoup vers les scolaires pour les intéresser à la science, en organisant des concours avec des thématiques bien précises.
Et ça, on peut avoir accès à ces informations sur le net ou...
Il y a un site internet qui est dédié justement à la Société française de physique où il y a toutes ces activités qui sont présentées. En même temps, elle donne souvent des avis consultatifs lorsque les politiques les consultent sur certains sujets, sur notamment les programmes scolaires ou des, comment enseigner les sciences dans les établissements. Il y a notamment aussi tout un bureau qui s'occupe de promouvoir l'image de la femme en physique.
Et oui, ça c'est un sujet qui revient assez souvent, on en parlait tout à l'heure sur la Société européenne de physique. Il y a régulièrement des programmes spécifiques, femmes et sciences, femmes et physique.
Ça veut dire nous sommes aussi dans ce mouvement-là.
D'accord. Et donc, aujourd'hui, les membres de la Société française de physique, c'est certes des enseignants-chercheurs ou des chercheurs, mais pas que. Il y a aussi d'autres personnes.
Oui, il y a toute personne qui s'intéresse, comme on disait à l'origine, à la science, à la physique, qui peuvent adhérer. Donc il y a souvent des enseignants de lycée ou de collège, donc des profs de physique, ou alors on va dire les retraités passionnés de physique. Donc, c'est-à-dire c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire toute personne qui s'intéresse à la physique a le droit d'adhérer et de participer aux différents bureaux. Mais c'est vrai que c'est essentiellement des universitaires ou des chercheurs qui vont y adhérer actuellement.
D'accord.
Des gens en activité professionnelle.
Ok. Et puis, on en parlait aussi, les conférences, il y en a un certain nombre. Il y a une chaîne YouTube qui permet au grand public d'aller écouter des conférences faites par des chercheurs en physique reconnus.
Exactement. Ils ont créé récemment une chaîne YouTube où vous pouvez assister à tous les grands événements qui sont organisés par la société en direct. Quand il y a une inauguration d'une exposition ou une conférence d'un grand scientifique invité en région parisienne, vous pouvez y assister en direct et la chaîne YouTube permet effectivement même de vous revoir après coup.
C'est quand même assez génial, plutôt que d'aller écouter des conférences faites par des non-spécialistes qui s'inventent spécialistes.
Oui.
Là, on a quand même accès à la source de la connaissance en direct, directement par les chercheurs qui travaillent sur ces sujets.
C'est vraiment très bien.
Je pense que c'est un point à noter. Alors maintenant, moi, je voudrais vous faire écouter un travail qui a été fait par le CERN à Genève. Donc, on va lancer la musique.
Oh yeah! I'm about to drop some particle physics in the club. The LHC is super duper fly. You know what I'm saying. Check it.
27 kilometers tunnel underground. Designed with mind to send protons around. A circle that crosses through Switzerland and France. 60 nations contribute to scientific advance. Two beams of protons swing round through the ring they ride. Till in the hearts of the detectors that made it collide. And all that energy packed in such a tiny bit of room becomes mass. Particles created from the vacuum. And then.
Oh, yeah.
LHCBC is where the antimatter's gone. Alice looks at collisions of red ions. Two of a kind. They're looking for whatever new particles they can find. The LHC accelerates the protons in the lead, and the things that it discovers will rock you in the head. We see asteroids and planets, stars galore. We know a black hole resides in each galaxy's core. But even all that matter cannot explain what holds all these stars together. Something else remains. The star matter interacts only through gravity. And until you catch a particle, there's no way to see. Take it back to conservation of energy, and the particles appear clear as can be. You see particles flying. But you notice there ain't nothing going the other way. You say my law has just been violated. That don't make sense. There's gotta be another particle to make this balance. And it might be dark matter. And for the first time, we catch a glimpse of what was filled most of the known verse. Because LHCBC is where the antimatter's gone. Alice looks at collisions of red ions. CMS and Atlas are two of a kind. They're looking for whatever new particles they can find. And a matter is sort of like matter's evil twin. Because except for charge, shell, cause when it meets its normal twin, they both annihilate. Matter turns to energy and then it dissipates. The matter is created from energy, which is exactly what they'll do in the LHC. You get matter and antimatter in equal parts, and they try to take this back to when the universe starts, the Big Bang.
and all the matter exploded, but the amount of antimatter was somehow eroded, because when we look around, we see that matter abounds, but the antimatter's nowhere to be found. That's why. LHCBs is where the antimatter's gone. Else looks at collisions of lead ions. CMS and Atlas are two of a kind. They're looking for whatever new particles they can find. The LHC accelerates the photons from the lead, and the things that it discovers will rock you in the head that he explodes. And that's the one that everybody talks about, and it's the one sure thing that this machine will sort out. If the Higgs exists, they ought to see it right away. And if it doesn't, the scientists will finally say there is no Higgs. We need no physics to account for why things have mass. Something in our standard model went awry, but the Higgs also haven't said just what it does. They suppose the particles have mass because there is this Higgs field that extends to all space. And some particles slow down while other particles race straight through like the photon. It has no mass, but something heavy like the top quark and dragons. And the Higgs is the boson that carries the force. And these particles take orders from the field that is its source. They'll protect it.
Nous venons donc d'écouter le rap du LHC, qui est un morceau qui a été composé par l'équipe de communication du CERN à Genève pour présenter des grands instruments, donc ALICE, ATLAS et la recherche du boson de Higgs. Donc là on est en plein vraiment dans la physique théorique, mais c'est un peu une autre histoire. Je voudrais qu'on vienne plutôt à Mulhouse, parce que dans le cadre des 150 ans de la Société Européenne de Physique, Jean-Luc, vous êtes...
Française de Physique. C'est pas grave.
Oups. Je le corrigerai. Donc, dans le cadre des 150 ans de la Société Française de Physique, vous êtes impliqué pour faire venir deux expositions sur Mulhouse. Donc, il y a Beautiful Science, c'est ça, et Portrait de Physicienne.
Oui.
Donc ce sont deux expositions qui vont être visibles. Beautiful Science est déjà là.
Oui.
Vous pourriez nous en dire un petit peu plus?
Oui, Carole. Donc ce Beautiful Science a vu le jour en juillet 2019 suite à un concours d'images qui avait été organisé par la Société Française de Physique. Le thème était le suivant: c'est montrer la science dans ce qu'elle a de plus beau, de plus élégant, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Il y a plein de gens qui ont participé, hein. Des artistes, des gens curieux de science, mais aussi des chercheurs. À la fin de ce concours, la Société Française de Physique a sélectionné une cinquantaine d'œuvres, des photos et des vidéos, pour concevoir une exposition qui a été présentée la première fois au 25e Congrès Général de la Société Française de Physique à Nantes en 2019, et qui depuis peut être vu au siège de la Société Française de Physique à Paris, et qu'on pouvait faire venir en province dans le cadre des 150 ans.
D'accord.
Ce que j'ai fait, donc actuellement, elle est sur Mulhouse, elle est visible jusqu'au 23 novembre à la Nef des Sciences, en accès libre, et bien sûr il y aura aussi des visites de groupe, de classe, de CM2 à la terminale.
Pour la nef des sciences, il faut peut-être appeler avant quand on veut aller la voir, parce que pour connaître les horaires exacts, hein, il me semble.
Oui, il vaut mieux vérifier, oui. Auparavant, ils ont aussi un site internet où,
oui, voilà,
où tout est précisé. Donc c'est sur le campus de Lidberg. Ensuite, cette exposition ira à Colmar du 24 novembre au 15 décembre au Learning Center au campus du Grillenberg également.
D'accord. Donc là, on va pouvoir... cette exposition, c'est des images de science et...
Oui.
Donc elles ont été sélectionnées par un jury.
Un jury, oui.
Est-ce que c'était... Vous savez qui était dans le jury, pas au niveau des noms, hein, mais c'était uniquement des membres de la SFP ou il y avait des photographes extérieurs, des personnalités
c'est
extérieures.
C'était essentiellement, je crois, des membres de la SFP, mais il y avait aussi des journalistes scientifiques.
Ah voilà, c'est ça, des journalistes scientifiques, oui, très bien. Et ce sont des images qui ont été toutes faites par des scientifiques ou...
Ou par des artistes aussi.
Par des artistes également, donc il y a eu les deux...
Il y a eu les deux.
Il y a les deux regards.
Les deux regards, oui.
D'accord. Et donc, vous l'avez dit, ça va être visible. Mais d'après vous, alors, ce genre d'exposition, est-ce que c'est le rôle de la société savante de proposer ça ou est-ce que ce serait le rôle plutôt d'un musée ou, qu'est-ce que ça apporte par rapport à la science?
Ça montre l'aspect, la beauté et un aspect artistique de la science aussi.
Et vous n'avez pas présenté quelque chose dans votre... non ? Vous n'avez pas été tenté de participer ?
Mais il faut déjà obtenir l'image qui... où on se dit, ah, celle-là, elle mériterait d'être exposée.
Ça vous est jamais arrivé ?
Si, peut-être déjà, mais c'est vrai que souvent, en tant que scientifique, on a tendance à se limiter. On se dit, ouais, c'est joli, mais bon... C'est bon pour la recherche, mais peut-être pas. C'est vrai qu'il faut inviter les gens à ne pas hésiter à participer à ce genre de concours pour montrer ses œuvres.
C'est vrai qu'on trouve un certain nombre de sites. Alors, cette exposition, elle est assez intéressante. Il y a les personnes qui ont contribué sont variées.
Il y a de l'astrophysique, il y a de l'informatique, de la biologie, de l'océanographie, de la médecine, c'est des images qui viennent de tous les domaines scientifiques.
D'accord. Et ça peut donner aussi envie d'en savoir plus.
D'en savoir plus.
Et oui. Puis, vous-même, vous utilisez des techniques de microscopie.
Oui.
Donc, tout ce qui est technique de visualisation, il y a quand même pas mal d'obtention d'images.
Oui.
En fait, la science, la physique se pense avec des images. Donc, c'est une façon de rentrer dans la façon de penser aussi des scientifiques.
Oui, tout à fait.
Et vos correspondants artistiques vont aller la voir, puisque vous avez dit que vous avez travaillé avec Véronique Arnold, avec Joseph Bey, avec d'autres artistes. Vous leur en avez parlé ?
Oui, je pense qu'ils iront la voir. Je ne peux pas m'engager à leur place.
D'accord, mais je vais essayer peut-être de savoir... qu'ils en pensent.
Oui, la deuxième exposition, Carole, c'est 15 physiciennes qui a été voulue par la Société française de physique pour mettre à l'honneur des lauréates des grands prix qui ont été décernés à des jeunes chercheuses ces dernières années.
Mm-hmm.
Et donc celle-ci sera visible, bien sûr, elle sera visible au Learning Center à Mulhouse. Et tout le mois de novembre et jusqu'au 15 décembre également. Et
d'accord.
Pas Mulhouse.
D'accord. Et donc, alors là, c'est vraiment des femmes de science,
des
physiciennes spécifiquement, c'est-à-dire
oui, c'est ça, oui.
qui sont reconnues comme étant dans les disciplines de la recherche en physique.
Oui.
Et elles ont toutes été sélectionnées de quelle façon, vous savez, leur spécificité ?
Dans la SFP, nous avons différentes divisions, que ce soit la division de la matière condensée, la physique des particules ou l'astrophysique ou autre. Et donc, chaque division décerne des prix annuels à des thésardes ou à des jeunes chercheurs ou chercheuses. Et en fonction de ça, il y a tout un vivier, on va dire, de personnes qu'on pourrait exposer. Et donc, à un moment donné, chaque division a fait des choix, dit « Ah ben ouais, moi j'aimerais bien qu'on mette en valeur telle personne parce qu'elle a fait tels travaux de recherche qui sont intéressants. » Et ça a été discuté au sein de la commission femmes et sciences de la SFP. Ce sont des chercheuses qui ont décidé qui serait mis en avant.
D'accord, donc c'était un travail
collectif
aussi, oui, et puis d'une division spécifique. En tous les cas, ça mérite vraiment d'aller faire un tour. Oui. Je pense qu'il y a un certain nombre de vos collègues qui sont aussi investis dans ces opérations femmes et sciences. Je pense, voilà, Marie-Christine Hanf,
oui, tout à fait.
En particulier sur l'UHA, mais il y en a d'autres au niveau d'Alsace. C'est aussi une association un peu amie avec laquelle vous avez pu travailler.
Tout à fait.
Alors, on se rend compte qu'en fait, la recherche, il y a beaucoup d'associations en réalité. Il y a beaucoup d'initiatives, tout à fait. Donc, des initiatives qui vont vers le grand public, qui sont portées par différentes structures associatives ou des collectifs, et parfois des musées aussi qui font appel à des chercheurs ou à des sociétés savantes pour présenter des sujets. Et donc, il y a plein d'endroits où on peut se renseigner sur la science telle qu'elle se fait dans les laboratoires au travers de toutes ces initiatives. Et bien sûr, j'invite les auditeurs à se rendre sur le campus de l'UHA, donc soit à Mulhouse, soit un peu plus tard à Colmar, pour voir l'une ou l'autre des expositions, ou les deux, bien sûr.
Oui.
Et merci Jean-Luc, et je vous dis... bonne fin de journée et à bientôt.
Merci Carole.
Legend has it that the moss grows on the north side of the trees. Legend has it when the rains come down, all the worms come up to breathe. Legend has it when the sunbeams come, all the plants stay open with their leaves. Legend has it that the world spins round. It's a 23 degrees. But have you heard the story of the rabbit in the moon? Or the cow that walked the planets while straddling the spoon? Or she who left the mountains while whistling up a tune? And swapped her songs with swallows while riding on a broom? Or we can all learn things worth many and a few from that old hunchback woman who lived inside a shoe. Or the girl who sang by day and by night she ate his soup. How the moral goes. Nobody knew and nobody knows how the bubble was robbed of his twice five toes, or how the dawn came to own a luminous nose, or how the jumblies went to sea in a sieve that they rode, and came to shore by the Jackalibo where the bong trees grow, where the Jabberwocky snow green tentacles do flow, and the quangle wangle plays in the rain and the snow. But have you heard the story? The rabbit in the moon, or the cow that walked the planets while straddling the spoon, or she who left the mountains while whistling up a tune, and swapped her songs with swallows while riding on a broom. Or we can all learn things worth many and a few from that old hunchback woman who lived inside a shoe. Or the girl who sang by day and by night she ate his soup. Or the man who drank too much and he got the brewer's roof. That the moss grows on the north side of the trees. Legend has it when the rains come down, all the worms come up to breathe. Legend has it when the sunbeams come, the plants stay open with their leaves. Legend has it that the world spins round on an axis of 23 degrees. From that old
Avis de recherche.
Avis de recherche.
Avis de recherche.
Donc, dans le cadre des célébrations des 150 ans de la Société française de physique, nous nous sommes rendus à l'exposition Beautiful Science. Et pour nous en parler davantage, nous avons le plaisir de dialoguer avec une des contributrices, donc Chloé Jeanne. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Cette exposition réunit des images qui représentent la beauté de la science. Et la plupart sont issues de travaux de scientifiques ou de spécialistes de communication scientifique. Et votre travail se démarque en particulier par le fait que vous êtes artiste. J'aimerais bien que vous nous expliquiez dans quel cadre, comment vous en êtes arrivé à participer à cette exposition proposée plutôt à des scientifiques.
J'ai découvert déjà l'appel à projet ou à candidature, je ne sais plus le terme exact, parce qu'une scientifique avec laquelle je travaillais à l'époque me l'a envoyé. Et donc cette époque-là, c'était l'époque où j'étais en post-diplôme recherche à l'ESAD d'Orléans. Et je menais une recherche sur comment on pouvait créer ses propres matières plastiques à partir du vivant. Donc pour ça, je me suis rapprochée du CNRS et plus particulièrement du Centre de biophysique moléculaire d'Orléans. Et j'y passais une fois par semaine. Donc c'était une forme de résidence, ou en tout cas d'invitation à découvrir les labos et les scientifiques. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir dialoguer avec des scientifiques, et donc ils m'ont transmis cet appel à candidature qui correspondait à ce que je développais avec eux, c'est-à-dire de traiter les images, l'imagerie scientifique avec un regard artistique, ou en tout cas mon propre point de vue.
Alors revenons un peu aux photographies que vous avez proposées. Ce qu'on y voit, c'est des formes cristallisées qui sont comme prises dans un liquide, dans un gel, et qui sont sur un fond clair et lumineux. En fait, c'est vrai que quand on les regarde, elles sont tout à fait dans le thème qui était montrer la science dans ce qu'elle a de plus beau, de plus élégant, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Tel était le texte de l'appel qui avait été lancé par la Société française de physique. Alors, comment vous y retrouvez par rapport à cette thématique, et parlez-nous un peu de ce travail plus particulièrement.
Alors déjà, globalement, l'infiniment grand et l'infiniment petit m'intéressent, en tout cas la question de l'échelle et de la perception dans mon travail, c'est quelque chose qui est déjà ancré. Et là, particulièrement avec cette série de micro-macro-photographies qui est donc pris grâce à un microscope. Donc on est sur des choses qui sont, dans mes souvenirs, fois 50, voire 100. Donc en fait, on est sur une observation qui est, pour les scientifiques, donc là, plus particulièrement, c'était une personne qui travaillait sur les biocristallisations, et donc lui voyait ça tous les jours. Donc ce sont des protéines d'œufs, dans mon souvenir c'était ça, qui étaient observées et cristallisées, et c'est-à-dire qu'il y a une lumière qui est envoyée pour mieux décrypter les cristaux. Donc ces lumières créent un spectre lumineux et de gamme d'une couleur qui peut varier, assez incroyable en fait. Il y a quelque chose de... On se croirait quasiment dans quelque chose de numérique, de quelque chose qui n'est pas réel, alors qu'on l'observe réellement à travers le microscope. Et j'ai décidé du coup de tirer cette série de 9 photographies, parce que pour moi, elle était quasiment surréaliste. Et pourtant, on est dans quelque chose de palpable, pas observable à l'œil nu, mais par contre, qui existe bien, qui est réel, et qui nous emmène vers des imaginaires. On peut y voir des planètes, ça peut rester de l'ordre de la cellule, mais en même temps, il y a une possible... une grande possibilité d'interprétation dans ces photographies, et je trouvais effectivement que ça correspondait totalement au thème de l'appel à candidature.
Oui, effectivement. Surtout quand on change d'échelle, on peut y voir autre chose, puisque le titre de ces visions microscopiques, c'est Éclipse. Et je trouve que dans le titre, il y a vraiment ce rappel du changement d'échelle. Et pendant votre résidence, comment les chercheurs réagissaient par rapport à votre regard sur les images? Est-ce qu'il y avait des divergences? Est-ce qu'il y avait des moments où vous vous retrouviez, ou des moments où c'était complètement différent?
Je pense que comment dire, ça les sortait un petit peu, c'est-à-dire c'est des choses qui sont quotidiennes pour eux, d'observer ces choses-là. Donc en fait, c'est comme, je pense que ça dépend de nos métiers, mais on voit des choses, plus c'est quotidien, moins on en voit forcément j'allais dire la beauté, pas forcément, mais en tout cas, ce qui peut être quasiment extraordinaire ou qui peut happer d'autres personnes. Et donc, il y a aussi la question pragmatique, parce que pour eux, c'est un outil, c'est un objet de travail. Donc, des fois, ça laisse pas forcément place, justement, à ce côté simplement beau. Et là, particulièrement, dans cette série de photographies, ce qui est intéressant, c'est que c'est autant des échecs. Donc, quand les cristaux sont bien formés, c'est une réussite pour étudier la protéine. Par contre, quand ça donne des cristaux qui ressemblent à des oursins, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du raté. Donc, finalement, certains scientifiques s'amusaient un petit peu et pouvaient même charrier leurs collègues en disant « Ah, bah, y a des choses qui n'ont pas été réussites. » Donc, il y avait quelque chose un peu d'amusant de vouloir voir ces images comme des résultats. Et en même temps, une fois exposées, une fois imprimées, donc les œuvres réelles sont imprimées sous un format 30x40, sous plexiglas. Donc ça donne aussi un autre statut à l'imagerie scientifique. Et donc il y avait vraiment cette réalité du beau qui était quand même perçue par la plupart des scientifiques qui ont pu voir le travail final.
Je vois. Et alors juste encore une petite dernière question. Est-ce que vous pensez qu'on peut apprécier une image scientifique juste pour son aspect esthétique, indépendamment de tout contexte ?
Ça, je pense que ça dépend de qui va l'aborder. De manière universelle, je sais pas. Je pense que certains peuvent se satisfaire de voir des choses qui relèvent du beau. C'est un peu toute la question aussi dans l'art. Est-ce que le beau est suffisant ? Est-ce que le concept est plus important ? C'est des vraies questions dans l'art contemporain. Moi, personnellement, j'aurais tendance à vouloir avoir du contenu, c'est-à-dire de la médiation autour de ces images ou au moins un texte qui m'explique d'où elles sont tirées. Après, je suis aussi partisane du fait qu'une image peut nous parler par notre propre perception, sensibilité, et que des fois, le discours peut ne pas forcément être utile dans l'appréciation. Je pense que le contexte peut être important et j'ai pas forcément de position très radicale là-dessus. Je pense que ça dépend dans quel objectif est produite l'œuvre. Si c'est pour justement donner au public une accessibilité aux sciences, dans ce cas-là, effectivement, je pense qu'il faut avoir un texte de médiation ou quelque chose qui fasse le lien entre l'aspect d'une œuvre qu'on peut regarder, apprécier, avec ce qu'il y a derrière et toutes les recherches. Mais indépendamment, je pense qu'on peut observer ces images si elles peuvent avoir l'ordre quasiment de décoration ou d'objets de curiosité sans forcément être, j'allais dire, intellectualisées.
Bien, je vous remercie en tous les cas pour ces explications. Et vraiment, j'invite tous les auditeurs à se rendre à la Nef des Sciences pour aller voir, entre autres, les photos de votre travail, mais bien sûr toutes les autres également. Merci.
Merci à vous.
Avis de recherche.
Avis de recherche.
Avis de recherche.
Avis de recherche. Point de vue sur la vie des laboratoires de l'UHA est une émission produite par le service universitaire de l'action culturelle de l'Université de Haute-Alsace en collaboration avec Radio MNE, coordonnée par Isabelle Lefebvre, chargée de l'action culturelle, et Laurent Vona, enseignant-chercheur. Avis de recherche, une émission de Carole Écoffé.